guérissait des gens. On leur donnait ensuite des avantages matériels, mm-hmm. parce qu'on arrivait avec l'argent. Les chrétiens du riz, hein.
Ah, ça, je ne connaissais pas cette expression, mais oui, ça sonne...
Je l'ai trouvé chez vous, les chrétiens du riz.
C'est vrai?
Oui.
Bah, non, alors... Ça sonne bien.
Ou je l'ai peut-être trouvé alors dans des recherches parallèles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on redonnait du riz à des convertis, ce qui leur permettait d'échapper à la famine.
Oui, tout à fait. Et justement, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils ont pris le parti de payer jusqu'au dernier centime les énormes indemnités que leur réclamaient les 8 nations qui avaient gagné cette guerre. Et après, moi, je m'interroge parce qu'on regarde tout ça d'un air en se disant, ah oui, vraiment, les Européens, quels voyous, et puis ces missionnaires, quelle horreur quand même de convertir. Mais en fait, alors, on en parlait tout à l'heure, on refait le passé, on refait le procès du passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Moi, je me demande, j'entends beaucoup de gens quand je leur parle de la Chine, disent qu'ils ont peur, oh, ça fait peur, et puis quand même, la démocratie, la liberté individuelle, etc. Alors, moi, je suis un produit de la démocratie, de la liberté individuelle, donc bien sûr, je suis convaincue, mais comme les missionnaires étaient convaincus à l'époque. Et je me demande si de brandir toujours nos propres convictions, parce qu'on a vécu dedans, parce qu'on est issu de ça, et puis qu'on en trouve. Brandir ça en disant vous nous faites peur parce que vous n'êtes pas comme nous. Je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose quand même. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais je pense que la démarche n'est pas...
On est peut-être dans une position inférieure aujourd'hui qui dit que bon, bah, passons à autre chose. Hein, mais la plaie, la blessure, elle demeure. Il y a eu une humiliation terrible d'une civilisation, encore une fois millénaire, en Chine, et qui explique comment le monde, on appelle ça le Sud global aujourd'hui, nous voit. Hein.
Ben,
que ce
comme
soit
des gens,
en Afrique, que ce soit en Asie,
comme des gens pas très crédibles,
Sud,
pas très sympas, oui, et commercialement très agressifs. Et on est étonné, hein, beaucoup d'entreprises souffrent de la concurrence chinoise en Suisse, en Europe. On est étonné, mais je pense que, enfin, moi, je ne suis pas si étonné que ça. Enfin, après avoir fait les recherches que j'ai fait pour ce roman, je pense que c'est, oui, ce serait pas mal qu'on s'intéresse un peu à essayer de se comprendre avant d'essayer de se transformer.
Grâce à votre livre, une confirmation de ce que j'avais entendu dans des conférences de géopolitologues qui disaient, mais il faut bien comprendre que dans chaque cerveau chinois, il y a encore l'humiliation des guerres de l'opium, l'humiliation du siècle de l'humiliation.
Parce que je crois que c'est comme ça que s'appelle le chapitre d'histoire à l'école. Hein.
Ouais.
Le siècle de, comme nous, on a, je sais pas, la Première Guerre mondiale, ils ont le siècle de l'humiliation. Ouais. Donc forcément, l'image qu'on a n'est pas idéale. Alors, l'image qu'ils ont en Europe, apparemment, il y a de moins en moins de gens qui prennent des cours de mandarin, les instituts Confucius ferment. Donc, j'ai l'impression que finalement, par rapport à il y a 30 ans, on s'intéressait, on regardait ces films et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter. C'est dommage, parce que c'est une belle culture, et puis je pense qu'on a quand même beaucoup en commun. Et justement, moi, pour écrire ce roman, je suis partie plutôt que de me dire, oh là là, la Chine, c'est compliqué, tous ces noms bizarres et tous ces lieux et toute cette histoire que je connais pas, mais j'ai essayé de partir de ce qu'on avait, de ce qu'on a en commun, en fait. Et je pense qu'on, voilà, on est des êtres humains avec, ils aiment le cirque, moi aussi, enfin, il y a plein de trucs, j'aime la cuisine. Voilà, je pense qu'il faut partir du simple, ouais. En fait.
Moi, j'ai trouvé très fascinant de voir la différence de civilisation entre une civilisation vraiment basé sur l'objectif, hein, il faut réussir l'objectif, c'est la civilisation européenne qui a eu son triomphe grâce à ça, et une civilisation chinoise à cette époque-là, aujourd'hui elle a compris comment marchait le monde, mais à cette époque-là basée plutôt sur l'harmonie. Alors c'était pas joyeux, hein, il y avait des pauvres très pauvres,
c'était pas mal impérialiste, hein, le Tibet, tout ça, enfin c'était
mais dans des frontières proches, quoi, hein.
Je crois qu'ils étaient pas mal impérialistes. Par contre, ce qu'ils avaient pas vu venir, c'était vraiment l'industrialisation. Et ça a fait des ravages aussi en Europe. D'ailleurs, la plupart des colons qui sont partis conquérir le monde, c'est ceux qui trouvaient pas leur place en Europe, parce que les vieilles familles qui ont été poussées.
Ça y a un chapitre. Enfin, il y a un moment très intéressant. Vous dites, il y a une description de l'intellectuel qui dit, ceux qui viennent chez nous, c'est les frustrés. Hein,
c'est les aventuriers qui veulent. C'est l'ambition, en fait. Et ça, je pense que c'est très humain, en fait. Cette ambition, on veut être riche. Et d'ailleurs, les Chinois, eux, l'assumaient complètement dans leur programme politique. Hein, les 10 dernières années, ils voulaient être riches, et c'est pour ça qu'ils sont devenus l'usine du monde, pour s'enrichir, pour sortir de cette misère. Et je pense que c'est important quand même, que tant qu'il y aura de la misère, il y aura des trucs bizarres qui vont se passer, mais que ce serait bien que tout le monde en sorte.
Bon, votre livre, Hélène Jacobet, nous permet de mieux comprendre le monde, mais surtout de suivre la vie, les aventures, parfois palpitantes, parfois calmes, hein, parfois sereines et calmes, de cette jeune femme, Lynn Ayer, donc personnage historique qui devient une figure de cette révolte des boxers. Merci.
Merci à vous.
Voilà, un livre paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et Favre. Voilà, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. C'était un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. Vivement l'été.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Ici à la boutique Anaïs à Aigle, je me suis posé la question, si je veux acheter des sous-vêtements pour ma chérie, comment je fais? Alison, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a déjà une histoire de taille, forcément, mais moi, je veux faire la surprise, il faut que je regarde discrètement, mais vous allez pouvoir me conseiller si je vous dis, ma chérie, elle est à peu près comme ça, elle est un peu ça et tout, comment on fait?
Alors, on a plusieurs options. La plus facile, c'est de, d'aller chercher...
Discrètement la taille, quoi, de voler un sous-vêtement une fois et d'essayer de s'en souvenir avec ma mémoire de mec moyen.
Voilà, ou alors de faire une petite photo de l'étiquette.
C'est bien ça.
Voilà, avec la taille, et puis de revenir vers moi en me présentant la photo pour le haut et la photo pour un bas. Comme ça, ça nous aiguille déjà un petit peu dans la taille que madame prend. Puis après, ben, ça va être au niveau des choix des couleurs, des modèles. Et puis après, c'est clair que quand c'est un cadeau, on a des fois une chance sur deux que ça passe, mais après, de toute façon, on échange, on fait les retours, il n'y a pas de souci.
Maintenant, des couleurs qui inspirent, hein. Quand je vois tous les modèles ici, forcément, j'ai les yeux qui brillent, mais comment on va pouvoir bien choisir? On se dit, c'est le choix personnel qu'on a peut-être envie de voir sur la personne, mais il y a aussi peut-être la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, enfin, comment on choisit idéalement pour essayer de se faire plaisir personnel, mais plaisir partagé?
Alors, c'est vrai que d'abord, on va être attiré par une couleur, souvent par une forme, par un modèle, mais le meilleur des choix, c'est après d'essayer, parce qu'on va voir des fois un soutien-gorge sur cintre magnifique, puis tout d'un coup porté, on va se rendre compte que c'est pas forcément la forme, la coupe qui nous met le plus en valeur et qui flatte le mieux. Alors après, on va trouver ensemble la bonne taille, la bonne forme, et c'est beaucoup d'essayage pour arriver à la sélection finale.
Alors justement, est-ce que la meilleure chose, c'est pas de venir en couple? Si on est en couple, ça peut être rigolo, une séance d'essayage à deux.
Oui, alors c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui viennent en couple. Ça, madame essaye, monsieur valide, donne son petit avis. Mais après, au final, le choix final revient souvent à madame, car c'est elle qui le porte. Hein. Donc, elle doit quand même se sentir bien dedans. Mais on peut venir à deux, en effet, ça peut être un bon moment aussi.
Puis alors, bien sûr, si on est célibataire, on se fait énormément plaisir. On vient ici, je dis pas le garçon, hein, parce que moi, je me vois pas porter certaines choses que vous avez. Mais, mais par contre, une dame, ben, vous allez aussi pouvoir peut-être l'orienter, la conseiller. Peut-être aussi, c'est un moyen de se redonner confiance, non, de porter des jolis sous-vêtements. Parce qu'au final, c'est que pour soi.
Ah oui, alors c'est clair que quand on va se regarder dans le miroir avec une belle parure, quelque chose qui nous met en valeur, ben, on va tout de suite se sentir très belle et un grand sourire. Et puis, ça fait du bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le mag, c'est ta région par ta radio du lundi au vendredi après le journal de 17h. Et le lundi, on fait des étirements et des génuflexions parce que c'est sport et c'est avec toi Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc.
Et on commence par the événement sportif du week-end, la patrouille des glaciers.
Exactement, et à la PDG, vous le savez Loïc, il y a les élites qui finissent devant, comme les vainqueurs féminines Caroline Ulrich et Thibaut de Seine de la Tour de Paix et les Ains. Mais un peu derrière, il y a aussi de belles histoires qui s'écrivent. Laurent Perruchot de Massonger l'a remporté deux fois cette mythique course. C'était sur le grand parcours entre Zermatt et Verbier en 1992 et 1994. Il a couru hier sa 10e et dernière PDG, non sans émotion, puisqu'il était accompagné de ses deux filles, Jade et Léa. Interview juste après la course.
Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que je pensais plus la refaire. La dernière fois, j'avais fait en 2010, j'avais dit que c'était bon. Et puis là, pour faire avec mes filles, ben voilà, c'était parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de la patrouille des glaciers, mais elles étaient accompagnées. Et puis maintenant, ben voilà, je voulais leur montrer le passage. Et puis pour moi, c'est clair que c'est la boucle est bouclée. Je voulais la faire une fois, la finir avec elles. Et puis maintenant, elles se débrouilleront toutes seules, sans moi.
Vous en avez pensé quoi, vous deux?
En tout cas, trop eu du plaisir. C'est vrai qu'on a toujours voulu aller sur le parcours, voir ce que papa avait fait. On a commencé déjà de faire la petite, mais on voulait toujours faire ensemble. Donc on est vraiment contents et ça s'est vraiment super bien passé. Donc non, c'est chouette, une belle expérience.
Oui, c'est un super beau défi. On a pu s'entraîner toute la saison, c'est top. On avait juste peur que on puisse pas partir et finalement la saison s'est tout bien terminée. Cerise sur le gâteau.
Cerise sur le gâteau, alors dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Laurent Perruchot, vous avez connu les meilleures conditions, on imagine, lors de vos deux victoires, on le rappelle, 92-94. Aujourd'hui, c'était quand même compliqué.
On nous prédisait vraiment très froid et tout, et je pense franchement, c'était des conditions idéales pour nous. On a même eu du soleil sur Rosa Blanche. Les marches super bien préparées, j'aurais un peu souci, j'ai dit avec toute la neige qui est tombée, mais c'était top. Et franchement, on a passé vraiment une belle édition. J'ai eu vu pire que ça il y a des fois que là. Alors bon, c'est clair, c'est sur le petit parcours, c'est peut-être différent que sur le grand. Mais non, de bonnes conditions. Bravo à l'organisation et bravo là, vive la patrouille des glaciers.
Vous avez abordé tout à l'heure le côté transmission à vos filles. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles aient retenu aujourd'hui?
Oui, moi c'était surtout la solidarité. C'est vrai qu'on est trois, une patrouille comme ça, j'ai toujours aimé grâce à ça, c'est de s'entraider. Ça sert à rien de partir devant, comme j'ai dit aux filles. S'il y a une qui est un peu plus, qui est pas bien à un moment, on doit rester avec, on doit s'occuper d'elle, on lui porte les skis, on fait. Moi c'est ça que je veux leur transmettre, la vraie chose pour le sport, c'est vraiment partager, passer des bons moments ensemble. Et puis c'est pas individuel, c'est une patrouille. Et puis c'est ça qui est beau.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous, Laurent, la patrouille des glaciers, quand on vous dit juste ça?
Moi, c'est un rêve. C'est clair que quand tu l'as gagné, c'était toujours... les gens, ils te disent toujours encore 30 ans après, pourtant. Ils parlent toujours de ça et ça fait plaisir. Alors là, j'ai eu du plaisir après à préparer avec les filles. Mais c'est vrai que la patrouille des glaciers, c'est magnifique, quoi. C'est une sacrée organisation. Hein.
Oui, est-ce que ça vous a donné le virus? On espère revenir dans 2 ans.
On verra.
En tout cas, c'est motivant. En tout cas, j'ai vraiment adoré, pourquoi pas. Ouais, franchement, ça vaut le détour.
Et pour la petite histoire, les Perruches, c'était le nom de leur équipe, ont rallié Verbier depuis Arruella en 7h, 35 minutes et 59 secondes.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Direction les patinoires à présent, c'est encore de saison, on en profite, n'est-ce pas Thierry Nicolet? Même si pour cette personnalité sportive de la région, la fin de saison rime avec sa retraite également.
Exactement, l'américano-suisse Christophe Braun a décidé de tourner l'une des pages les plus importantes de sa vie, celle du hockey. Après avoir griffé la glace en tant que joueur, puis transmis sa passion en tant qu'entraîneur, le Villardou de bientôt 50 ans a décidé de tirer la prise après 4 décennies dans le milieu. Jusqu'à ce printemps, il coachait le HC Montéchablais en 2e ligue. Il revient sur cette décision.
À 50 ans, on a quand même un peu moins d'énergie. Je l'ai quand même constaté tout au fil de la saison. Et puis à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir fermer son livre qui a été ouvert effectivement il y a plus de 40 ans. Donc on va dire 4 décennies où tous mes week-ends du mois d'août au mois de mars, avril étaient rythmés par le hockey sur glace. Et puis à un moment donné, il faut faut dire stop. Puis c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, vous avez dit 4 décennies, ça fait 80% de votre vie. Hein, si on arrondit un petit peu, ça fait un peu peur quand même.
Ouais, non, peur pas. Après, c'est clair que j'aurai un peu plus de temps pour moi. Peut-être faire un petit peu de sport aussi, hein, moi, parce que j'ai mis ça un petit peu de côté. D'ailleurs, c'est certainement la raison de mes quelques kilos qui débordent à gauche, à droite. Mais non, en tout cas, maintenant, ça me fait pas peur. De toute façon, c'est l'intersaison, donc on peut pas vraiment y penser. Certainement qu'au mois d'août, mois de septembre, ça va me titiller un tout petit peu. Et puis ben, pour l'instant, ben, je l'ai fermé, je compte l'avoir fermé pour de vrai ce bouquin. Mais c'est tant jamais, peut-être que d'ici une année ou deux ou trois, ou quelque chose comme ça, ce qui adviendra de l'avenir.
Le coaching, ben, ça fait quand même 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'être humain ?
Beaucoup, vraiment énormément. Je dirais la première chose, c'est que j'ai toujours pu côtoyer des jeunes, voire des très jeunes. Donc ça m'a gardé aussi avec un esprit encore plus jeune toutes ces années durant. Et puis je pense que ça m'a aussi aidé dans mon travail. Hein. Je veux dire, mon travail, je suis employé de banque, je reçois de la clientèle. Et puis ben, il faut aussi être bien, écouter, savoir écouter, analyser les besoins de chacun, autant dans ma profession qu'au niveau du hockey. Donc ça m'a permis en fait de trouver un bon mélange et beaucoup de choses que je reprends de la banque pour le hockey, puis d'autres choses que je prends du hockey pour amener dans mes entretiens banque. Donc pour moi ça faisait un bon lien et régulièrement j'y pensais.
Bon, vous étiez joueur, vous avez joué à Fribourg, à Zoug, à Lausanne, à Sierre aussi, à Villars. Cette décision de devenir coach, comment elle s'était faite ?
Alors, c'était pas vraiment une décision, c'est venu un petit peu comme ça par hasard. En finalité, je donnais un coup de main aux jeunes ici à Monthey. Après, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre éventuellement la première équipe. Dans un premier temps, ça devait être un autre coach qui devait venir et moi, je devais simplement l'assister pour lui donner un coup de main. Puis en finalité, en dernier recours, le coach principal a décidé autrement pour sa carrière de coach. Et puis dans la foulée, le président il m'a demandé de reprendre l'équipe à mon compte. Et puis j'ai dit OK et puis c'est parti de là.
C'était une manière pour vous à ce moment-là de ne pas forcément couper le cordon avec la glace ?
Oui, certainement. Puis je pense que j'avais des choses à apporter. J'étais quand même conscient que, ouais, que le hockey m'avait beaucoup donné, ça c'est sûr. Et puis que je pouvais, d'une manière ou d'une autre, peut-être rendre un tout petit peu à César ce qu'il m'avait donné. Et puis donner quelques conseils, autant au niveau hockeyistique, au niveau peut-être personnel, avec mon vécu, mon expérience de vie en tant qu'homme simple et puis en tant qu'hockeyeur.
Vous avez pu observer en tant que joueur, en tant que coach, une certaine évolution, j'imagine, dans ce monde du hockey. Bah, par rapport à vos débuts, peut-être parler du niveau de jeu, par exemple. Quelle évolution vous avez pu remarquer ? Est-ce que le hockey a évolué déjà vers le bien, vers le moins bien ?
Ah non, ça a évolué vraiment de façon drastique, je dirais. C'est un peu comme la société. Hein. Ça va trop vite pour la musique, parfois. Et c'est vrai, quand on voit un match de Liga aujourd'hui, de play-off notamment, ben on voit que le niveau il est exceptionnel, avec une vitesse de jeu, vitesse de patinage, une intensité de tous les instants. Et je pense que ça a évolué vraiment positivement, parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours quelque chose à regarder. Donc vraiment, je pense qu'il y a plein d'aspects qui ont changé. Ben, le fait qu'il y ait 6 étrangers maintenant qui peuvent évoluer en Liga, le fait que les joueurs soient encore mieux préparés physiquement, le matériel aussi fait beaucoup. Et c'est vrai que ça fait vraiment des sacrés spectacles.
Vous avez connu le monde professionnel, vous avez coaché au niveau amateur, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bah, même en deuxième ligue, je pense que le niveau a aussi augmenté, hein, ça c'est clair. Hein, il y a des très bons joueurs qui évoluent à ce niveau-là, certains joueurs qui veulent garder encore un petit pied comme joueur, qui viennent évoluer à ce niveau-là. Moins de contraintes qu'en première ligue ou en My Hockey League, ça c'est sûr, mais avec un niveau de jeu qui est quand même totalement cohérent. Après, ben, ça reste vraiment de l'amateurisme, parce que ben, les joueurs ne sont pas du tout payés hein, pour faire ce qu'ils font là pour leurs équipes respectives. C'est vrai qu'à un moment donné, ben, ce qui manque peut-être, c'est un petit peu d'assiduité des joueurs, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie actuelle que même les joueurs de deuxième ligue, pas tous, bien évidemment pas tous, ont une tendance de vouloir faire peut-être trop de choses. C'est peut-être ça qui a un petit peu évolué, peut-être pas dans le bon sens en deuxième ligue.
C'est la suite de votre vie pour vous, Christophe Brown. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Puis qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Bah là, je vais me concentrer sur mon nouveau travail. Hein. J'ai démarré un nouveau travail dans une nouvelle banque depuis novembre passé. Donc, ça fait même pas 6 mois que j'y suis. Donc, maintenant, je vais me concentrer là-dessus, me concentrer aussi pour un petit peu plus de temps pour ma famille et puis sur moi-même pour, on va dire, éliminer ces quelques kilos en trop.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On va terminer ce mag au spécial sport du lundi en faisant la place belle à la bicyclette avec le Tour de Romandie qui débutera demain à Payerne sur les chapeaux de roue avec un contre-la-montre. Thierry Nicolet, ton invité de ce soir n'est autre que le dernier vainqueur suisse de l'épreuve.
Exactement, c'était en 1998 et c'était le résident d'Olon, Laurent Dufault. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, pour vous, ce sont 10 départs sur la boucle romande, le premier en 1991, le dernier en 2003, pour 40 étapes en tout, dont 5 victoires. Bon, le Tour de Romandie, c'est quelque chose pour vous, ça représente quelque chose d'important dans votre carrière?
Ça a toujours représenté quelque chose d'énorme, parce que déjà en tant que j'étais jeune, gamin, comme beaucoup, on allait voir les champions, on allait se faire plaisir. Et puis après, quand on a la chance de devenir coureur cycliste et qu'on passe professionnel, le rêve, c'est d'être au départ de ce Tour de Romandie. C'était mon cas à l'occasion de ma première année, où en plus je me suis révélé, j'étais le meilleur Suisse en terminant 5e au classement général. Et c'est vrai que la course, elle a toujours eu une place particulière dans mon calendrier, avec beaucoup d'attention pour bien me préparer, pour essayer d'évoluer au meilleur niveau, devant mon public aussi, et sur des routes qu'on connaît. Donc c'est clair que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi.
Et ce public, ces routes, quand on est coureur, ça représente un avantage quand même, de courir à domicile?
Toujours, ça représentera un avantage, parce que déjà, on a beaucoup plus de motivation. Le fait déjà de courir sur des routes qu'on connaît, donc on sait où un petit peu on va mettre les pieds, si je peux me permettre l'expression. Ça nous donne la possibilité d'aller aussi en repérage, un petit peu en amont de la course, d'aller reconnaître les étapes, reconnaître un petit peu les endroits piégeux. Donc il y a quand même un avantage sur l'adversaire. Et puis de courir devant son public, devant ses supporters, ça bonifie, ça donne des ailes des fois. Et puis c'est toujours un plaisir. Surtout si on peut évoluer au premier plan, quoi, ça c'est clair.
Ouais, puis on a tous des souvenirs du Tour de Romandie qui passe devant chez nous. Il y a toujours beaucoup de monde sur cette course-là. Bon, vous, si on devait sortir un ou deux souvenirs de ces 10 participations, qu'est-ce que vous retireriez?
Moi, il y avait déjà, comme je l'ai dit, la première année, ma première participation. Moi, j'étais donc au sein de l'équipe Helvetia, entouré de jolis noms, notamment Pascal Richard, qui est le parrain de cette édition 2024, pour qui fête aussi son 30e anniversaire, qui avait gagné donc le prologue à Chiasso. Et puis, par la suite, on gagne le lendemain avec Jean-Claude Leclerc, qui prend le maillot, et moi, j'étais le petit Suisse, le petit jeune, le néo-pro, qui est venu un petit peu voler la vedette au leader de l'équipe en terminant 4e sur les hauteurs de la Foulie. Et puis j'ai terminé donc 5e à l'occasion de ce premier Tour de Romandie. Puis c'est vrai, tout de suite on voit un petit peu l'émulsion que ça a provoqué, avec bien sûr les médias, le public. Et puis après, c'est clair, il y a eu 98 où là je me suis vraiment révélé au grand public. Là j'ai abordé la course motivé avec une grosse équipe, 3 victoires d'étape, le classement général. 2000, une victoire d'étape à la Chaux-de-Fonds également, une 3e place au classement général. Et puis j'ai quand même terminé pas loin de la gagne en 2003. Je remporte également une étape avec la prise du maillot de leader sur Alloëche-les-Bains. Et puis je termine 2e au contre-la-montre à Lausanne avec une jolie 2e place sur le classement général. Donc celle-ci, il aurait fallu presque la gagner pour quasiment finaliser la carrière, vu que j'ai terminé en 2004.
Ouais, ça en fait des souvenirs en tout cas, Laurent Dufault. On va parler du parcours de cette année, de l'édition 2024 de ce Tour de Romandie. Bon, on l'a dit, ça commencera demain à Payerne avec un prologue. Il y aura plusieurs étapes, notamment l'étape Rennes dans la région, ce sera samedi, l'étape entre Saillon et Lézin. Le parcours 2024, si vous deviez nous le décrire un petit peu, Laurent Dufault, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
Comme un peu toujours, je crois que le Tour de Romandie, c'est un parcours très complet, très exigeant. Généralement, c'est pas n'importe qui le gagne. C'est souvent soit quelqu'un qui se révèle, mais c'est souvent un grand champion qui est là, qui a déjà des caractéristiques au niveau de l'effort individuel, donc doit être fort au niveau contre la montre et surtout très bon dans la montagne. Demain, il y a un parcours très court du côté de Payen, très technique. Donc de toute façon, tous les leaders devront aborder cette course très concentrés pour essayer de perdre un minimum de temps. On a une première étape du côté de Fribourg, plutôt réservée aux routiers sprinters. Je vois un groupe de 8 ans de coureurs plus ou moins qui devrait se présenter. Ensuite, on a le premier grand rendez-vous du côté de Salon-les-Marécottes, jeudi, avec une première explication. Donc, ça sera une montée sèche. Donc, c'est là qu'on va peut-être déjà voir une première hiérarchie se faire au niveau du classement général. Bien sûr, toujours le rendez-vous important, le contre-la-montre du côté d'Oron cette année. Il y a un contre-la-montre d'environ 15 km, mais quand même assez exigeant. Et puis là, comme vous l'avez dit, la grosse étape de montagne, plus de 3400 mètres dénivelé, qui va partir de Saillon pour rejoindre les hauteurs de Lézin, avec la montée d'Ovrenade de son côté le plus dur, la montée des Champs et des Giettes, un enchaînement de difficultés qui risque de faire mal dans la partie finale. On est à moins de 50 km, une petite passage du côté de en dessus de chez moi à Antagne pour ensuite la montée finale. Donc voilà, je crois un tour de Romandie complet. Et je pense qu'il va permettre en tout cas une belle explication entre les hommes forts. On se réjouit de voir du beau spectacle cette semaine.
Ouais, une sacrée étape samedi, vous l'avez dit, des sacrées étapes tous les jours, hein, jusqu'à dimanche, jusque dans le canton de Genève. Bon, on va parler un peu des chances suisses avec vous, Laurent Dufond. On le disait en introduction, vous êtes le dernier vainqueur helvétique. Ça fait quand même 26 ans. Est-ce qu'on est content que ce record perdure, de rester tout en haut, ou on a quand même envie de se voir quelqu'un se remplacer après toutes ces années?
À chaque année, c'est un petit peu les mêmes discussions. C'est le dernier Suisse, c'est Laurent Dufaux qui l'a remporté. Et on essaie toujours de trouver qui c'est qui pourrait me succéder. Moi, j'aimerais vraiment qu'un Suisse y arrive. Finalement, on a énormément de très très bons coureurs ces dernières années. On a une nouvelle génération de coureurs suisses, plutôt des coureurs qui ont peut-être des caractéristiques plus pour des courses d'un jour, comme Stéphane Bisseger, Marc Hirschi, que ça soit même Mauro Schmidt. On avait malheureusement celui qui avait démontré avoir des prédispositions pour pouvoir essayer de remporter un tour mondial. C'était malheureusement Gino Meder qui est décédé l'année dernière au Tour de Suisse, qui avait terminé deuxième il y a 2 ans. Et maintenant, il faut voir, il y a le jeune Jan Christen, hein, qui est la nouvelle pépite du cyclisme suisse, qui avait remporté le Tour du Pays de Vaud il n'y a pas si longtemps que ça, qui vient de remporter une étape autour des Abruzzes, qui sera présent avec la grosse équipe UAE, hein, avec le vainqueur sortant Adam Yates. Ça, c'est un coureur qui a des prédispositions pour le classement général. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi un jeune roman, Yanis Voisard, qui a énormément progressé, qui est un coureur que je connais bien. Je l'ai côtoyé quand il était dans une équipe où j'étais directeur sportif, l'équipe Acros. Il vient de terminer 4e autour des Abruzzes. Je l'ai eu encore dernièrement au téléphone et il est très très motivé. C'est un coureur qui a, pour moi, des caractéristiques en tout cas de bien figurer. Maintenant, il faudra peut-être encore laisser à ces coureurs le temps de prendre un peu de la maturité. Mais en tout cas, on a une jeune génération qui arrive les dents longues et puis qui n'ont pas trop de complexes finalement.
Ouais, vous m'avez parlé de Yanis Voisard, c'était 18e place l'année passée. Ils seront 15 Suisses, hein, sur ce Tour de Romandie. Mais on l'a dit, ils n'arrivent pas encore forcément à jouer tout devant ces Suisses. Qu'est-ce qui manque? C'est au niveau de la formation? Est-ce qu'on a... C'est un problème cyclique? Est-ce qu'il y a des années où on a forcément des jeunes qui peuvent courir ces courses à étapes tout devant? Et puis il y a des creux. Est-ce qu'on est un peu dans un creux ou est-ce qu'on se situe là?
Moi, je ne pense pas qu'on est dans un creux. Je crois que le cyclisme suisse se porte très très bien. Comme je l'ai dit, on a une jeune génération qui est arrivée il y a quelques années, où on a marqué quand même les esprits sur des courses World Tour, mais plutôt des courses d'un jour. Si on prend un Marc Hirschi qui avait terminé, qui a gagné la Flèche Wallonne, qui a gagné des étapes au Tour de France sur des courses d'un jour, un Mauro Schmidt qui a été souvent aussi aux avant-postes dans des courses très très importantes, à Stéphane Bisseger. On a plutôt des caractéristiques de coureurs efficace sur des courses d'un jour, un petit peu moins sur des courses par étapes. Après, faut pas oublier que le Tour de Romandie est devenu depuis quelques années une course World Tour. Il y a les meilleures formations du monde, beaucoup de rouleaux compresseurs, comme on peut les appeler. Et des fois, les Suisses qui appartiennent à ces formations ont des fois un rôle d'équipier, peuvent pas forcément défendre ses propres chances parce qu'ils doivent faire le travail par rapport à la hiérarchie, par rapport à la stratégie qui est mise en place. Donc, je pense qu'on a maintenant la chance d'avoir une nouvelle équipe suisse depuis 2 ans avec l'équipe Tudor, qui fait un excellent travail, qui est une équipe de formation. C'est une équipe qui est en train de se construire gentiment, qui va gentiment arriver au niveau World Tour. Et on voit cette année qu'ils sont déjà très très compétitifs et ils vont certainement enrôler des jeunes Suisses pour gentiment progresser. Et, je l'espère en tout cas, qu'ils vont jouer les premiers rôles sur des courses par étapes.
Ouais, cette équipe Tudor avec le Martigneurin Sébastien Reichenbach, on a le leader, on a dit le Jurassien Yannis Voisard, encore Alberto Dainese, l'Italien pour les sprints. Vous avez parlé du tableau, vous l'avez abordé, du plateau pardon, des coureurs, vous l'avez abordé avec Adam Yates, le vainqueur sortant de cette équipe UAE. Bah, y a des beaux noms quand même cette année. Alors, on n'a pas les plus grands noms, ceux qui sont tout en haut, à qui on pourrait penser, Vingegaard, Pogacar, Roglic. Mais on a les frères Yates, on a Julien Alaphilippe, on a Alexander Vlasov, on a Carlos Rodriguez, Egan Bernal. Ce plateau, vous en pensez quoi cette année?
Je crois qu'il y a un plateau qui est excellent, avec des belles surprises dernière minute dans l'avenue de Julien Alaphilippe. Je crois que c'est un coureur qui a du panache, c'est un ancien champion du monde, c'est un coureur qui est en train de préparer le Tour d'Italie, donc je pense que c'est un coureur qui peut amener un certain spectacle, et puis qui amène aussi une valeur ajoutée pour les organisateurs et pour la course. Je pense que c'était une très bonne chose. Il y a aussi Carlos Rodriguez, hein, très en vue sur le dernier Tour de France, du côté de l'équipe Ineos. Donc je crois qu'on a le vainqueur sortant, Adam Yates, qui est au sein d'une formation impressionnante, avec Juan Ayuso qui vient de gagner le Tour du Pays Basque, avec Magdulti, avec Sivakov, Jan Christen, le jeune Suisse, donc une équipe. Je pense qu'on a 3-4 équipes qui vont sortir du lot, l'équipe Bora également, avec Alexandre Vlasov, toujours très présent sur la boucle romande, avec Yann Hinley, ancien vainqueur du Tour d'Italie, la Groupama FDJ, qu'il ne faut pas oublier, avec David Gaudu et Lenny Martinez, un petit peu la nouvelle pépite du cyclisme français, qui viennent de remporter à eux deux dernièrement des courses du côté du Jura. Donc non, je crois on a une belle participation, il va y avoir à mon avis un bon suspense, et puis il y a toujours une révélation, donc je crois qu'on va encore en avoir cette année.
Ouais, bah, en tout cas on le souhaite. Merci beaucoup Laurent Dufaux. Je rappelle, vous êtes le dernier vainqueur suisse du Tour de Romandie, c'était en 1998. Bah, merci d'avoir répondu à notre invitation, on vous souhaite tout de bon, une belle soirée.
Merci à vous.
Et une bonne soirée aussi à tout le monde, merci beaucoup.
Radio Chablais, programme de nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Quand on m'a proposé de faire une interview là-dessus, quand on m'a proposé le sujet, j'ai tout de suite dit oui. Et je me suis tout de suite imaginé des enfants en bas âge, en mode survivaliste, en train de faire des vœux et construire des tipis. Je sais pas si c'est ça exactement dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que mon imagination va trop loin. La crèche en forêt, c'est quoi? C'est la question qui nous concerne. Et pour ça, j'accueille Sylvie Rossier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Charles Mutzenberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous appartenez à la crèche Les Baroudeurs du Caillou à Saint-Trifon, vous êtes assistant socio-éducatif. Ok, la crèche en forêt, s'il vous plaît, c'est quoi?
Alors, la crèche en forêt, c'est comme une crèche normale. Simplement, on est à l'extérieur, dans la nature, dans la forêt. Et nous, on a de la chance de pouvoir bénéficier d'une forêt qui est privée, qui procure un lieu sécur pour les enfants.
Est-ce que vous avez une autre définition que celle-là, monsieur Jean-Charles Mutzenberg?
Non, je crois que Sylvie a bien décrit la situation. Moi, je dis toujours que c'est comme si on était au parc toute la journée.
Oula, ça c'est fun ça. C'est vrai en fait, effectivement, parce que déjà, souvent quand on va à la crèche, déjà il y a plein de jeux. Alors moi j'étais à la crèche il y a très longtemps, hein. Mais y a toujours plein de jeux, probablement des jeux qu'on n'a pas forcément à la maison. Moi je me rappelle que c'était un moment cool d'aller à la crèche. Là, c'est le même principe, mais en plus de ça, avec les bâtons en plus.
Alors oui, avec tout ce que la nature nous procure, des bâtons, de la boue, des cailloux, des feuilles mortes. Voilà, on vit vraiment au rythme des saisons aussi. Comme aujourd'hui, il faisait un peu plus frais. Alors on a remis les habits d'hiver et puis on a fait du feu pour se tenir un petit peu au chaud.
Donc on fait du feu avec les enfants. Donc j'étais pas si loin avec le mode Bear Grylls là. On fait du feu pour les enfants quand il fait froid.
Sur contrôle, sur accompagnement, bien sûr, hein, parce que c'est assez dangereux. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est que toute la préparation se fasse avec eux. On coupe du bois avec des haches. Alors sur accompagnement aussi, toujours. Hein. Ils ont plutôt et c'est eux qui ramassent le bois après. Des fois, c'est moi qui utilise la hache, mais c'est eux qui ramassent le bois pour mettre après dans le feu. Puis après, une fois que c'est allumé, il y a toute la partie sécurité. Donc, ça fait juste 50 cm. Ils peuvent juste profiter de la chaleur, quoi.
C'est ça, on a un feu sécurisé, comme on doit toujours faire, peu importe quand on fait des feux en forêt. Il faut toujours bien les sécuriser.
Exactement.
Est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose que vous enseignez justement aux enfants?
Alors, ils savent qu'ils doivent justement pas aller parce que c'est dangereux, qu'ils peuvent aller s'asseoir près du feu avec un adulte, qu'ils peuvent pas aller tout seuls. On les laisse jamais seuls quand on fait le feu. Et ils savent que le soir, on doit éteindre avant de partir. Pour pas laisser un feu sans être éteint avant de partir de la forêt.
Donc, en fait, on va faire une éducation, une instruction plutôt, parce que finalement, l'éducation, c'est le job des parents, ça, on le rappellera jamais assez. Hein. Mais finalement, on est en train de leur faire une instruction sur comment se comporter en nature.
Alors, bah, c'est une autre approche, comme on leur apprend aussi de pas ramasser les fleurs, parce qu'il faut aussi les laisser, parce que bah, maintenant, il y a les abeilles, il y a d'autres insectes qui ont besoin, puis que ces fleurs, bah, certaines font des fruits. Alors, on donne une petite instruction douce sur comment se comporter dans la nature aussi, que ben, on est dans la nature, mais il y a aussi des animaux qui vivent là, puis il faut respecter aussi ce cadre qu'on nous offre.
Ouais, effectivement, qu'on a la chance d'avoir, en plus dans notre magnifique région de la forêt, on en a, et de la nature, on en a beaucoup. Et c'est marrant parce que moi, c'est plutôt le genre de truc qu'on allait apprendre quand j'étais petit, ben, en promenade d'école. Là, en fait, quand on arrivera en école primaire, ben, les enfants, ils seront déjà prêts un petit peu à se comporter en nature, en fait.
On leur apprend à respecter la nature, donc parce qu'ils ont les petits ont tendance à tout ramasser, ils adorent tout ramener, une fleur, même un caillou, un glin, un marron, on a tout ça dans notre forêt. Hein. Donc on leur apprend à respecter ça en définitive. Et puis on n'a pas inventé la roue. Moi, ça me rappelle dans ma jeunesse, on jouait dans la forêt, on n'avait pas de jouets électroniques, on n'avait pas de très peu de jouets en plastique. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait se promener en forêt et puis on jouait avec ce qu'on trouvait sur la place, quoi. Ben là, Ils sont donc cette expérience-là, maintenant.
Alors ça, c'est hyper fun, et Dieu sait qu'on se marrait à faire les bouquetins dans la forêt, en haut, en bas. Et puis bon, bah, c'est vrai que de temps en temps, je parle pour moi, avec mon frangin, c'est possible qu'il y en ait un ou deux qui rentrent avec une bosse. Mais enfin, bref, c'était ça, la forêt. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. J'ai choisi une chanson tout à propos. Vous arrivez à la lire par-dessus mon épaule. J'ai choisi une chanson de Henri Dess, qui s'appelle « Ma forêt ». Bah, Henri Dess, ça marche à tous les coups, on est d'accord?
Oui, j'aime bien. Moi aussi.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
La crèche en forêt, c'est un peu comme une crèche normale, mais à l'extérieur, toujours accompagnée et encadrée par des adultes, les enfants vont d'une part apprendre à respecter la nature et leurs habitants, mais aussi à s'amuser dans cette nature, comme l'ont fait les êtres humains depuis la nuit des temps. Et on fait en fonction des saisons dans ces crèches en forêt. Exemple aujourd'hui, il faisait froid, du coup ils ont fait un feu, et les enfants savent déjà comment se comporter avec le feu. Sylvie Rossier et Jean-Charles Mützenberg, des baroudeurs de la crèche Les Baroudeurs du Caillou à Saint-Trifon, vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez dans une forêt privée, que c'est encadré, donc la forêt elle-même est délimitée, ils peuvent pas partir où ils veulent, les enfants, on est d'accord?
Oui, alors ils ont, on redit tous les matins les règles. On a une petite porte à l'entrée, c'est symbolique parce que c'est une porte en escargot qu'on a fait, et dès qu'ils passent cette porte, ils savent qu'ils n'ont plus le droit de sortir de cette porte. Et puis on a une barrière qui délimite, et ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller derrière leur barrière et pas le droit d'aller tout seul dans la forêt. Et c'est une règle qu'ils respectent.
En fait, ils sont responsabilisés finalement. C'est pas, on les oblige pas à dire attention, c'est pas un truc martial, c'est leur dire regarde ce qu'il y a autour de toi, fais attention au-delà de là, de cette limite, faut pas y aller parce que.
Oui, on explique bien les règles. Chaque fois, ben, le matin, on fait un petit moment d'accueil, on fait les chansons et après, on explique les règles aux enfants comme ben, on a une règle qui est très importante. Si ils sont cachés derrière notre petite cabane des toilettes sèches, parce qu'on a des toilettes sèches, si on les appelle, ils doivent nous répondre. Et c'est une règle qui marche très très bien, même avec des petits de 2 ans.
Donc en fait, ils sont totalement responsabilisés à se comporter comme il faut dans la nature. Et ça, c'est peut-être un des points différents, parce que j'imagine qu'il doit quand même y avoir des points communs avec les autres crèches. Quels vont-ils être, Sylvie Rossier?
Alors, ben, dans le développement, dans les activités qu'on propose, il y a quand même des similitudes avec les crèches à l'intérieur, parce qu'on propose aussi du transvasage comme ils le font dans les autres structures. Il y a de la motricité, voilà, tout ça, c'est
en commun. Aussi, on fait des lectures, des bricolages aussi, on essaye. Peut-être la différence, c'est qu'on essaie de trouver. C'est ce qu'on essaie de trouver ce qu'on sur place, le matériel, pour pouvoir faire les bricolages. Mais il y a certainement des similitudes par rapport à ça.
Et puis, ce que je dirais, ben, on a des règles propres à nous-mêmes, comme par exemple, ils ont le droit de courir. que forcément des fois on peut pas faire
en intérieur,
dans une salle s'ils oui. se mettent tous à courir, si c'est pas la salle qui est appropriée à ça. Autrement, au niveau créativité, on a de la chance de pouvoir utiliser tout ce qu'on a sous la main pour construire des petites cabanes avec du bois, des feuilles. Alors, ils peuvent vraiment s'amuser avec ce qu'ils trouvent dehors.
Et puis, moi, je me posais la question. Hein.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
T'as vu le temps qu'il fait ? Là, ils sont pas n'importe quel temps, ils sont dehors. L'environnement, pour eux, il est plus important. S'il pleut, on monte à la crèche, on leur dit, restez sous le tipi là, vous êtes à l'abri. Non, non, on va sous la pluie. C'est incroyable. Tout ce qui est environnement est plus important pour eux. Ils l'ont assimilé dans comment je pourrais dire ça?
C'est dans
c'est
leur
naturel.
C'est naturel.
Ouais, c'est nous naturel, quoi, exactement.
Donc vous êtes en train de potentiellement former les futurs explorateurs de ce monde.
J'espère.
Mais ça serait tellement bien, en fait. Bah, écoutez, oui.
Je fais juste une parenthèse. Et oui, on fait aussi les siestes dehors, si jamais. Et là, c'est assez sympa de les voir dormir dans leur sac de couchage. Ils sont tout emmitouflés et puis ils passent des très bonnes siestes.
Et ça sert à rappeler aussi que les enfants, ils sont équipés pour être dehors. On les amène pas naturellement comme ça. Non, ils sont full equipment. Et puis et tout va bien. Ok, ben franchement, moi maintenant, je m'y connais un petit peu plus. Maintenant, ça me donne envie, en fait.
Mais venez.
Vous prenez les adultes aussi. Voilà. Là. Super. Ben, faut pas me le dire deux fois. Faites attention. Merci infiniment, Sylvie Rossier et Jean-Charles Mutzenberg. Je rappelle que vous êtes éducateurs sociaux et assistants socio-éducatifs au Baroudeur du Caillou, une crèche en forêt à Saint-Trifon. Vous êtes venus répondre à la question. La crèche en forêt, c'est quoi? Merci infiniment et excellente soirée à vous deux.
Merci à vous.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Fabienne Ferrari vous propose ce jeudi 25 avril à l'Ola de la Tuilerie à Saint-Maurice. Mon père, je vous pardonne. Fabienne Ferrari, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, expliquez-nous cette pièce. Alors, c'est issu du livre de Daniel Pittet, gros succès littéraire. Peut-être replacer déjà l'histoire dans le contexte.
Alors, Daniel Pittet donc, a écrit ce livre parce qu'un jour, il a rencontré le pape. Et puis, en discutant avec le pape François, il lui a décrit sa vie en disant qu'il avait été abusé sexuellement par un prêtre capucin à Fribourg, et le pape François lui a dit, si tu écris ton témoignage, si tu écris un livre, je te le préfacerai. Et le pape François a tenu sa promesse, gros succès littéraire, 30 000 exemplaires vendus, traduits en 8 langues, et c'est sur la base de ce livre que le metteur en scène Jean Cholet a fait une adaptation théâtrale et m'a demandé, en tant que comédien, d'interpréter Daniel Pittet.
Alors justement, il faut se placer dans le contexte. J'imagine que vous avez rencontré Daniel Pittet, vous avez beaucoup échangé avec lui. Ce qu'il faut comprendre, justement, je disais, ce contexte.
Oui, c'est juste. Alors j'ai la chance d'avoir un auteur encore vivant, ce qui fait que j'ai pu échanger avec lui. Pour moi, mon souci en tant que comédien, c'était de me rapprocher au plus juste de ce qu'il a voulu écrire en termes d'émotion, en termes d'intonation, et de ne pas trahir son propos.
Alors justement, comment on fait pour, en même temps, pouvoir adapter, donner l'essence même de la pièce, du texte, du livre?
On fait confiance au texte, pour commencer. Ensuite, je suis comédien, donc quelque part, c'est mon métier. Et puis les mots sont crus, les mots sont directs. Il explique vraiment ce qui lui est arrivé. Mais surtout, et c'est le message à retenir, c'est son chemin vers le pardon, sa résilience, le fait qu'il a réussi à pardonner à son bourreau, il a réussi à construire sa vie sur ce pardon. C'est ce message-là aussi que nous passons dans ce spectacle.
Il prend, j'imagine, aux tripes ce texte, au niveau personnel aussi, donner de soi-même, c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais moi je me sens grandi de ce texte, parce que justement, non seulement je donne un message positif sur la force, quelque part, du pardon, mais aussi sur la manière dont cet homme s'est reconstruit après avoir vécu tous ces abus pendant 4 ans, entre l'âge de 9 et 13 ans.
Alors, vous le dites, hein, y a une sorte de résilience là-dedans. C'est aussi peut-être une pièce qui peut montrer, vous l'avez dit, la force du pardon, mais la force aussi de cette résilience.
et de cette envie de continuer à avancer. On peut continuer à avancer, que ce soit cette situation, ou peut-être même d'autres.
Oui, absolument. Donc là, on parle d'une situation d'abus au sein de l'Église. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais on peut élargir aussi ces problèmes d'abus dans toutes les familles, au sens large du terme. Et c'est pour ça que je trouve que ce spectacle s'adresse vraiment à tout le monde, parce qu'on est face à un problème de société aujourd'hui. On s'aperçoit que les politiques, par exemple, font des campagnes contre l'alcoolisme, font des campagnes de prévention contre l'usage des drogues. Il n'y a pas encore grand-chose qui se fait au niveau des abus sexuels dans des situations sous autorité, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'autorité religieuse, que ce soit dans le show business, par exemple, aussi. Et là, oui, je passe un message également dans...
Un peu plus général.
Un peu plus général, merci, oui.
Mon père, je vous pardonne, avec vous, Fabienne Ferrari, sur scène, une mise en scène de Jean Cholet, issue du livre de Daniel Pittet. C'est ce jeudi à l'Aula de la Tuilerie à Saint-Maurice à 20h. Monbillet.ch pour toutes les réservations. On se retrouve d'ici quelques instants. Fabienne Ferrari, restez bien avec nous. Merci.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud.
Sur le grill.
Et on retrouve Cyril en compagnie de Fabien Ferrari pour la deuxième partie.
Mon père, je vous pardonne, c'est le spectacle joué par Fabienne Ferrari, mise en scène de Jean Cholet, issu du livre du succès littéraire de Daniel Pittet. Mon père, je vous pardonne, c'est ce jeudi à 20h à l'Aula de la Tuilerie à Saint-Maurice. Mon billet .ch pour les réservations. Fabienne Ferrari, déjà, revenir aussi vers vous, parce que vous êtes l'acteur de cette pièce, vous avez des ateliers théâtre très célébrés, très connus, mais à la base, Fabienne Ferrari, vous n'êtes pas du tout du monde du spectacle et du théâtre, vous étiez dans la finance.
C'est juste, moi j'ai commencé une carrière dans la finance, et à l'âge de 43 ans, j'en avais un petit peu... Comment exprimer ça? Assez de travailler pour la satisfaction de l'actionnaire, toujours, et je me suis dit, voilà, je vais retomber, reprendre mes premières amours, c'est-à-dire la scène et le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais enfant, adolescent. On m'a dit, c'est pas un métier, faut faire autre chose. J'ai fait autre chose et puis j'ai craqué à 43 ans. Je suis revenu. Oui.
Vous êtes maintenant l'actionnaire de votre vie, en fait. Vous menez votre barque et votre plaisir.
Mais quelle belle image. Oui, c'est exactement ça. Et effectivement, j'ai créé des cours de théâtre à Lausanne. Ça s'appelle Atelier Théâtre Fabien Ferrariste au Flon. Chez moi, la plus jeune élève a 4 ans et la doyenne en a juste 8 ans de 6 de plus.
C'est énorme.
Oui, 150 élèves, il y a des cours de théâtre tous les jours. Je pars du principe qu'on a passé beaucoup de temps à apprendre à écrire, beaucoup de temps à apprendre à compter, pas assez de temps à apprendre à nous exprimer. Et chez moi, on s'exprime.
On s'exprime, et justement, ça fait du bien de s'exprimer, que ce soit, vous l'avez dit, à 4 ans ou à 90 ans. C'est important, parce que on reviendra sur la thématique du « Mon père, je vous pardonne », qui est l'image même de l'expression révélée. Mais il faut parler, il faut dire les choses, il faut pas garder au fond de soi.
C'est juste, faut libérer les paroles dans toutes circonstances. C'est parfois plus compliqué. S'exprimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exprimer soi-même. Le théâtre, pour ça, c'est un outil extraordinaire, parce qu'évidemment, on travaille sur les émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur et ce genre de choses. Plus on avance dans son apprentissage théâtral, plus on va commencer à graduer ses émotions, petite joie, grande tristesse, petit blues passager, etc. Et s'exprimer, c'est absolument fondamental. Oser dire qui on est, oser dire ce qu'on a envie de dire.
Alors justement, Mon père, je vous pardonne, c'est le livre de Daniel Pittet qui parle justement de son expérience des abus dans l'église. Vous le jouez sur scène ce jeudi à Saint-Maurice. C'est fort hein, aussi dans la symbolique par rapport au lieu.
Oui, c'est fort. C'est une symbolique qui me parle. Moi-même, j'ai vécu mon enfance dans des internats catholiques. Alors, j'ai pas du tout la même vie que Daniel Pittet. Fort heureusement, je n'ai pas été abusé. Mais néanmoins, il y a des références à la religion, il y a des références, je veux dire, aux internats, à tout ce qui entoure l'Église, qui m'ont parlé fortement. Donc ce livre m'a d'une part fortement touché, c'est sûr, donc j'ai eu très envie de l'interpréter. Puis moi j'aime bien faire du théâtre aussi à dimension sociale, théâtre qu'on peut baptiser citoyen, qui...
Passer un message.
Passer un message, là le message est extrêmement fort, évidemment la date de Saint-Maurice est éminemment symbolique aussi.
Alors, mon père, je vous pardonne. On le rappelle, Fabienne Ferrari, vous serez sur scène ce jeudi. Mise en scène de Jean Cholet, Daniel Pittet. Dernier mot sur Daniel Pittet. Quelle vision il a de cette interprétation et de cette vision scénique des choses?
Ah, alors, il est très enthousiaste, évidemment, de ce qu'on a réussi à faire comme adaptation théâtrale de son livre. Il est présent pratiquement à chaque représentation, c'est-à-dire qu'à la fin, on fait ce qu'on appelle un bord de scène, qui n'est pas obligatoire, mais on invite les personnes qui le désirent à rester, à échanger avec Daniel Pittet sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont entendu. C'est toujours des échanges extrêmement riches et extrêmement nourris.
Indispensable, ce bord de scène, on l'imagine. Mon père, je vous pardonne. Fabienne Ferrari, vous serez sur scène ce jeudi, on le rappelle, à l'Ola de la Tuilerie à Saint-Maurice à 20h, monbillet.ch pour les réservations. Merci Fabienne.
Merci à vous.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Eh, ça m'aurait mis du temps pour trouver quelqu'un pour venir ici. Alors que j'habite à une centaine de mètres d'Emmanuel Golu, mon très cher guide. On est à Colombey, c'est ici que se trouve le nombril du monde. Bon sens que ça m'a coûté. Où est-ce qu'on se trouve, mon très cher guide, pour cette première capsule? Je voulais qu'on parle d'un lieu.
Alors, on se trouve vers l'église de Colombey. Pour moi, Colombey, c'est d'abord là où j'ai grandi, je suis né. Et c'est là où j'ai mes racines. Et si je dois retenir quelques éléments de ma commune adorée, c'est d'abord les bâtiments, les vieux bâtiments, entre autres l'église, que je trouve absolument superbe, et notre maison de commune.
Pourquoi ?
Parce que déjà, c'est beau. C'est tout du travail que nos ancêtres ont fait, même si la plupart de ces ancêtres venaient d'Italie, parce que peut-être que nos anciens à nous n'avaient pas les compétences nécessaires. Et puis, c'est du granit de nos coteaux, je sais pas. J'ai une attache viscérale par rapport à ces vieux bâtiments et ces vieilles pierres.
Bon, là, on est devant l'église de Saint-Didier, une église toute blanche avec uniquement tout ce qui est gris. C'est justement ce granit qui provient des carrières qui étaient dans le bois des Fauges. Et vous disiez que c'était des ancêtres probablement italiens, c'était des noms de famille bien connus de la région, des Colombara et compagnie, qui étaient venus dans les années 1850 du Piémont, parce qu'ils savaient casser le caillou, justement.
Tout à fait, c'est juste. Alors que nos anciens à nous partaient plutôt vers l'Amérique du Sud pour trouver du travail et de quoi se nourrir.
Oui, à ce moment-là, avec une période de grande famine en Valais en plus. Et puis, il y a deux, trois noms de famille en Argentine, bien valaisans, comme des Favres et compagnie. Et puis, vous disiez qu'il y avait le caillou ici, il avait vraiment beaucoup d'importance. Et puis, qu'il y avait du marbre de Colombey.
Alors, on disait toujours du marbre de Colombey parce que c'est un calcaire qui a une teinte légèrement rosâtre. Mais en fait, ce n'est pas du marbre, c'était un faux espoir, c'est du calcaire de Colombey. Mais c'est vrai que dans les tout vieux bâtiments, on va retrouver plus de ce vieux calcaire de Colombey que du granit. Je dirais jusqu'avant 1850, c'était plutôt le calcaire, puis après, le granit est venu.
Oui, c'est plus facile à travailler, le calcaire aussi.
Certainement, oui, beaucoup moins dur, effectivement.
Est-ce qu'on ose rentrer dans la paroisse de Saint-Didier? Quand même voir un petit peu ça de l'intérieur.
Et sur l'église de Colombey, il n'y a qu'un élément en calcaire, c'est la frise. Le tympan de la porte d'entrée où il y a Saint-Didier et Saint-Théodule, sauf erreur, qui sont gravés, ainsi que les armoiries de la commune.
Ok, alors on vient de rentrer. Il y a des grosses colonnes. En fait, ces colonnes, elles ressemblent un peu soit à l'église de Montée, soit un peu aux bâtiments communaux, colonnes de la région. C'est vraiment des grosses colonnes en granit. Mais c'est un bloc.
C'est splendide, ce sont des monoblocs, c'est un travail remarquable. Et en plus, dans cette église, les vitraux sont aussi splendides. Un mélange entre le moderne et presque de l'abstrait, si on prend les vitraux d'une la nef. Mais j'adore ces vitraux. Et puis les deux mosaïques à gauche et à droite, le Christ et Marie, sont aussi splendides. C'est vraiment des éléments qui font partie de cette église et qui font qu'elle est belle, simplement. Autre élément peut-être spécial par rapport à cette église, c'est un clocher qui n'a pas de toit. C'est un clocher plat et c'est assez rare.
Comment ça se fait, on sait ça?
Alors, j'ai entendu dire, j'ai pas de preuves scientifiques, que par rapport au terrain de Colombey qui est sur la nappe phréatique, on avait peur que ce soit trop lourd pour le bâtiment lui-même. On avait peur d'alourdir le bâtiment avec un toit supplémentaire. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou pas. Il faut demander à un ingénieur, puis je ne suis pas ingénieur.
Non, mais en même temps, ça pourrait se comprendre, parce que je pense que chaque colonne, là, elle a déjà son petit poids. On peut comprendre, mais le caillou, alors, le caillou de Colombey.
Splendide, franchement, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de carrière de colombe, vraiment, par rapport au granit. C'est vraiment des blocs erratiques qui ont été cherchés dans les forêts. Et pour tous ceux qui se promènent dans les forêts de Colombey, c'est toujours étonnant de voir la largeur des chemins, les murs de soutènement qui restent encore de cette époque-là. Et puis on pouvait voir vraiment qu'on montait dans les forêts avec des chars, des chevaux pour aller chercher ces cailloux dans les quatre coins des forêts de Colombey.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle ?
Sur Radio Chablais.
Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais pourquoi est-ce que quand j'ouvre mon médicament, je tombe toujours sur la notice d'emballage ? Et franchement, c'est agaçant. Alors, c'est vrai, hein, on peut observer d'ailleurs de ce genre de situation sur plein de choses. Vous avez un top blanc, qu'est-ce qui se passe ? Ou vous renversez le café dessus. Ou alors, vous oubliez votre carte de bus le jour où il y a un contrôleur qui passe. Ou alors, vous voulez ouvrir un sachet de fromage et vous n'arrivez jamais à l'ouvrir correctement. Ça fonctionne pas. Et vous voulez ouvrir votre boîte de médicaments et chaque fois, vous tombez sur cette fameuse notice.